On en a parlé à quelques reprises depuis le début de l'émission. Les Alouettes étaient en action hier à Calgary pour affronter possiblement la meilleure équipe de la Ligue canadienne depuis le début de la saison. On surveillait donc ce match-là avec attention et ça a été une victoire de 23-21 des Alouettes grâce à un placement réussi en fin de match. On en parle avec Renaud Bourbonnais qui surveillait bien sûr cette rencontre-là. Bon matin Renaud, comment ça va?
Salut Jasmin, ça va bien toi-même?
Merci d'être là ce matin. Je sais qu'il est quand même un peu tôt considérant que le match est terminé passé minuit. C'est apprécié que tu sois là ce matin.
Ben, c'est gentil à toi de m'avoir invité.
Renaud, j'ai l'impression qu'un peu comme ça a été le cas contre Toronto la semaine dernière, si on veut parler de ce match, il faut commencer par parler de la fin de la rencontre avant de revenir sur tout ce qui s'est passé avant. La fin de ce match-là avec le placement d'Ozé Malta sur 57-58 verges, on dirait que c'est pas clair de quel est le chiffre exact, là, mais bref, un placement de très loin.
Ouais, exact. Au départ, on avait dit 57. Finalement, la marque qui est inscrite là, dans les notes de la Ligue canadienne de football, c'est bien 58 verges. Qui améliore la marque de concession des Alouettes qui datait quand même de 1968, là, Jasmin, c'est pas rien.
Ouais.
Et pour Ozé Malta lui-même, c'était quand même d'augmenter sa distance record de 5 verges là, par rapport à ce qu'il avait déjà fait dans la Ligue canadienne. Son record était à 53. Donc, c'était pas facile comme beauté. Il y avait énormément de pression sur lui étant donné là, les circonstances de la rencontre. Donc, je pense qu'on peut lever notre chapeau à Ozé Malta qui non seulement a réussi ce placement-là, mais qui a été 5-5 dans le match, puis qui a été un moteur essentiel là, des Alouettes pour marquer des points dans ce rencontre.
J'irais presque jusqu'à dire, Renaud, est-ce que ça a été le joueur du match pour les Alouettes hier?
Avec ce qu'il a fait à la toute fin, j'ai envie de lui donner des points. C'est rare que je vais donner au poteur un titre de joueur du match, là, mais dans celle-là, il l'a pas volé.
Je travaille habituellement, mais tu travailles toi aussi avec Didier Orméjus à RDS. Didier aime pas ça, donner le joueur du match à un batteur. Puis c'est pas populaire dans le football, donner le joueur du match à un batteur, mais quel match il a eu hier, Ozé Maltas. Revenons sur McLeod Bethel-Thompson, qui lui était surveillé dans cette rencontre-là. 30 en 40, 280 verges, une passe de toucher, une interception. Je posais la question un peu aux amateurs ce matin. Est-ce que cette performance-là vous a rassuré un peu pour la suite avec McLeod Bethel-Thompson à la barre de l'attaque des Alouettes? Dans quel camp te ranges-tu de ton côté?
Je vais dire oui, dans la mesure où pour moi, à chacun de ses départs cette saison, il s'est amélioré. Contre les Lions, il a été meilleur que contre les Tiger Cats. Contre les Stampeders hier, il a été meilleur qu'il avait été contre les Lions il y a trois semaines en fait maintenant. Ceci étant dit, est-ce que c'était spectaculaire pour McLeod Bethel-Thompson? Je pense pas. Je pense qu'à un certain moment, on a coupé le livre de jeu aussi. Il y avait énormément de passes rapides. Les passes devaient sortir rapidement. On voulait pas donner la chance à la ligne défensive des Stampeders de se rendre à lui. D'ailleurs, il y a eu un seul sac du corps de la part des Stampeders parce que justement, je pense qu'on a fait une bonne sélection de jeu au niveau des Alouettes pour éviter la pression. Maintenant, est-ce qu'il y avait énormément de passes difficiles qui ont été réussies pour McLeod Bethel-Thompson dans ce match-là? Il y en a eu quelques-unes, mais je peux pas dire qu'il y en a eu beaucoup. L'interception,
Je regardais le match hier, Pierre Vercheval l'a dit en ondes, là, tu peux pas lancer ce genre d'interception-là avec l'expérience, avec l'âge qu'il a. C'était en fin de premier quart, il restait quoi, 3 minutes, je pense, au premier quart, sur une belle séquence quand même des Alouettes à ce moment-là. Là.
Ben exact, on était en train de construire un peu de momentum, alors que les Stampeders ont pris du temps eux aussi à se mettre en marche en attaque en début de match. Donc pour moi, l'interception, tu sais, il y en a des interceptions qui vont passer, des ballons déviés qui tombent dans les mains de l'adversaire, bon, ça arrive des fois. Là, de lancer carrément du mauvais côté du receveur, pour moi, ça a été une erreur. Ceci étant dit, il s'est repris par la suite, puis on peut pas dire que pour le reste du match, c'est les Stampeders qui ont échappé des interceptions et tout. Non, McLeod Bethel-Thompson a quand même été bon. Pas excellent, mais il a été bon.
Il y a 24 heures, Renaud, on se parlait puis on mettait quelques points d'emphase de cette rencontre-là. J'aime, le lendemain du match, pouvoir revenir un peu sur ces points d'emphase-là. Ouais. L'un des points que je t'ai parlé hier, ça avait été l'utilisation du jeu au sol dans le match contre Toronto. On avait utilisé avec beaucoup de parcimonie, on avait attendu tard dans le match pour s'en servir. Tu m'avais parlé hier que c'est une des choses que tu allais surveiller dans ce match-là, le ratio un peu entre l'attaque au sol et le jeu aérien. Qu'est-ce que tu en as pensé finalement là, de cette soirée-là hier?
Ben, d'abord, le premier jeu offensif a été un jeu au sol pour les Alouettes, donc ça, c'était réglé d'avance, on n'a pas eu à attendre très longtemps. Par la suite, écoute, 15 courses dans le match, j'enlève les faux filets du corps, j'enlève les courses improvisées ou la course improvisée là, de McLeod Bethel-Thompson. On a remis 15 fois le ballon au porteur de ballon. Pour moi, dans un match où on a tiré de l'arrière pratiquement tout le long, c'est potable chez les Alouettes, c'était acceptable comme ballant. On l'a vu que des fois, ça enlevait la pression sur les épaules à McLeod Bethel-Thompson. Puis au final, le jeu au sol n'a pas été ultra productif, Mais après le placement d'Osé Maltos, parce que les Alouettes ont retouché au ballon ensuite, et ils avaient besoin d'un premier essai. Sean Thomas Hurlington, il est allé chercher ce premier essai-là. Donc, sans mettre des gros chiffres sur la table, d'ailleurs, Sean Thomas Hurlington allait chercher 3,4 verges par course, c'est pas énorme. On a quand même été capable d'avoir une utilité, d'enlever un peu de pression sur les épaules de notre carrière. Donc ça, j'ai aimé ça. La sélection de jeu, pour moi, a été excellente dans le match.
L'autre point qu'on avait surveillé aussi hier, c'était au niveau défensif. On l'avait dit, les Stampeders, depuis le début de la saison, avaient déjà 3 matchs de plus de 35 points. Alors, on savait que c'était une grosse commande pour la défense des Alouettes, qui, toi-même, de ton propre aveu, hier, tu le disais, Renaud, avait été un peu en demi-teinte dans les derniers matchs. Hier, on a bien réagi quand même. 21 points alloués aux Stampeders et seulement 8 en deuxième demi. 13 des 21 points ont été marqués en première demi.
Ouais, exact. Puis je te dirais qu'en première demi, même si les Alouettes sont rentrées avec les devants, on dirait que je me posais des questions sur la défense. J'avais l'impression que l'attaque des Stampeders progressait constamment dans le territoire des Alouettes. Ceci étant dit, en deuxième demi, on a eu un réveil. Parce que en première demi, on se faisait brasser. Dedrick Mills, qui portait le ballon, tombait toujours par en avant. Combien de fois on a vu une empilade de joueurs se déplacer dans la direction favorable aux Stampeders de Calgary? Puis je me disais, c'est pas dans les habitudes des Alouettes, surtout pas de leur défense, de se faire brasser par une équipe adverse. Je trouve qu'en deuxième demi, on a été meilleurs. Même si des fois, les Stampeders progressaient, une fois de temps en temps, on arrivait avec un jeu pour venir provoquer quelque chose. Le Valouguac qui vient provoquer un échappé. Non, les Alouettes n'ont pas marqué des points sur la séquence qui a suivi en attaque. Par contre, ça avait privé les Stampeders de points sur cette séquence-là. Puis quand on regarde la marque finale, ben c'est des points qui auraient fait la différence entre une victoire et une défaite. Donc, chapeau à la défense dans un match où elle a été testée, où il y a eu de l'adversité, elle a su se relever. Ceci étant dit, elle a probablement eu un bon coup de main là, par le fait que Vernon Adams a été victime de ce qui s'apparente à être une commotion cérébrale durant le match.
Ouais, ça, je voulais t'en parler aussi. Vernon Adams a quitté le match au troisième quart pour les Stampeders. Alors, l'attaque en a souffert aussi en deuxième demi. Faut le noter quand même. Là, même si on envoie des fleurs à la défense, faut quand même noter que Calgary était sans son quart partant là, à partir d'une portion de la deuxième demi. Ça, on va surveiller parce que ça serait évidemment une énorme perte pour cette équipe-là qui est 5-2 maintenant après sept matchs.
Ben, complètement. Puis, en fin de match, avec P.J. Walker, qui d'ailleurs, toi et moi, on l'a décrit, P.J. Walker, ça fait
le bon vieux P.J. Walker, des Panthers de la Caroline, l'un des 64 quarts là, des dernières années des Panthers.
Exact, un ancien joueur par excellence, si je ne me trompe pas, dans la XFL d'ailleurs, pour P.J. Walker, mais on l'a envoyé en fin de match, on s'entend, là, lui, s'est pas entraîné avec les partants, jamais avec les Stampeders, et pas nécessairement tout à fait à l'aise dans l'attaque, j'imagine, de ce qu'on amène au football canadien, parce qu'il est arrivé en toute fin de saison l'an dernier là, sur l'équipe sur l'alignement des Stampeders, mais n'avait pas nécessairement obtenu du temps de jeu de qualité. Et j'ai pas compris les choix de jeu qu'on a fait chez les Stamps en fin de match. Je pense à la dernière séquence qu'ils ont eu en attaque. On est en deuxième et deux. On est avec un carrière qui est pas à l'aise visiblement dans notre système, qui complète moins de 50% de ses passes. Et en deuxième et deux, avec un porteur robuste qui connaît un bon match, qui connaît une très bonne saison, en fait, on a décidé de lancer le ballon. J'ai pas compris la stratégie chez les Stampeders, puis on a eu l'air fou parce que sur ce jeu-là, c'est même pas passé près qu'on réussisse à compléter la passe. La pression s'est amenée rapidement. Walker s'est débarrassé du ballon. Ça a forcé le troisième essai. Je dois mettre un pouce vert en bas là, pour le choix de jeu de Dave Dickinson en fin de match.
Renaud, j'en ai parlé hier quand on a mis la table pour le match. Début d'une séquence de 5 rencontres contre des équipes de l'Ouest pour les Alouettes. Hier, c'était le premier match. Là, les deux prochains vont être au stade Percival Molson. Deux matchs plutôt différents. Là, on aura l'occasion évidemment d'en reparler la semaine prochaine. Mais parle-nous de ce qui s'en vient pour Montréal. La semaine prochaine, c'est la Saskatchewan qui a une fiche de 5-1 cette saison. La semaine suivante, c'est les Elds qui, eux, ont une fiche de 1-4. Eux, j'ai l'impression que ça fait 5-6 ans là, que c'est très difficile à Edmonton. Là.
Ouais. Écoute, la dernière participation en éliminatoire remonte à avant la COVID. Jason Moss, pour te donner une idée, était l'entraîneur-chef des Eskimos à l'époque.
Mais c'est deux défis très différents qui s'en viennent.
Ouais, complètement. Pour les Riders, on parle d'une puissance de la Ligue, une équipe qui marque des points à tous les matchs, une attaque non seulement au sol, mais aussi par la passe avec Trevor Harris, qui est extrêmement efficace. Ils ont frappé un mur contre les Stampeders il y a quelques semaines, mais l'attaque avait été productive, elle avait juste pas été capable de compléter ses séquences dans la zone payante. Donc, je peux pas dire que les Riders sont nécessairement une équipe là, bien inférieure aux Stampeders. Ça va être un autre gros défi. Puis quand je pense aux Elks d'Edmonton, ben là, on parle peut-être de la pire équipe de la Ligue. Je sais qu'ils ont annoncé hier que Cody Fajardo allait maintenant être le partant, ou du moins allait être le partant jusqu'à nouvel ordre pour le prochain match.
Content pour lui quand même qu'il ait l'occasion de se refaire valoir, Cody Fajardo.
Exact, t'as raison. Mais pour les Elks d'Edmonton, règle générale, c'est une saison absolument abominable. On avait fait beaucoup de promesses. On avait investi énormément, mais énormément d'argent en défense. Et présentement, c'est une défense qui rate des plaqués, qui accorde au moins 30 points à tous ses matchs. C'est vraiment pas une équipe qui me convainc. Donc, on va affronter une très bonne et une moins bonne équipe au cours des deux prochains matchs chez les Alouettes. Mais ce que je retiens surtout, c'est que la victoire contre Calgary est extrêmement importante parce que ça enlève un peu de pression. Si tu perdais le match contre Calgary, ensuite tu perdais le match contre la Saskatchewan, ben là, tu allais devenir nerveux pour un match contre Edmonton qui n'est pas un match qui est supposé t'énerver. Alors que là, en gagnant ce match-là, on voit où les Alouettes vont se positionner au classement. On voit que les éliminatoires, je sais qu'on est loin, je sais qu'on est encore juste au mois de juillet, mais on se voit que les éliminatoires, c'est une possibilité beaucoup plus que réelle pour les Alouettes en ce moment. Donc, je pense que ça vient d'enlever beaucoup de pression sur les épaules de tout le monde.
Renaud, c'était un plaisir de te parler ce matin de cette victoire-là des Alouettes. Une belle victoire avec ce placement de José Maltas en toute fin de match. Merci d'avoir suivi ça pour nous. On va se reparler la semaine prochaine. Les Alouettes qui vont jouer le week-end prochain contre les Riders de la Saskatchewan. On aura l'occasion de s'en reparler. Bon week-end, Renaud.
Salut, merci beaucoup à toi aussi, Jasmin.